Bonjour bien-aimé. Je bénis vraiment Dieu de ce temps que nous avons les dimanches de pouvoir le célébrer, être reconnaissant de sa présence dans nos vies. Ce que nous avons tous compris, c'est que les cultes de dimanche ne sont pas une option. Elles font partie de nos vies, elles font partie de notre cœur d'adorateur. Nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, nous sommes des enfants de Dieu et le culte fait partie de notre identité. Au-delà d'être une activité pour laquelle nous sortons, elle est même au cœur de ce que nous sommes. Le culte que nous faisons nous-mêmes, chez nous, en communion, en méditation, en prière, est aussi utile, nécessaire que celui que nous faisons ensemble. Merci au Seigneur qui nous donne ce cœur de venir dans sa maison, dimanche après dimanche, mardi après mardi, en tout cas pour ce qui concerne notre Église, pour lui montrer notre amour, pour communier et pour manifester que nous aimons le servir et le glorifier. Prions Dieu. Seigneur, je te bénis. Plusieurs de mes sœurs et de mon frère et de mes frères ont levé la voix ce matin. Et nos cœurs, tous ensemble, tu vois, sont en reconnaissance devant toi. Et je veux joindre ma voix à la voix de mes bien-aimés pour te dire, béni sois-tu éternel. C'est vrai, tu es une haute retraite, tu es un abri sûr. Et en toi, nous avons la sécurité. Même dans l'épreuve. Mais tu n'es pas un Dieu qui nous laisse tout le temps dans l'épreuve. Tu es plutôt un Dieu qui bénit. Merci. Parce que tu es le Dieu qui bénit. C'est cette promesse que tu as faite très tôt à Abraham. Tu as dit, lève-toi, pars. Je te montrerai un pays en héritage. Et tu seras béni et les générations de tes descendants seront bénies. Et toute nation, toute famille qui sera dans la lignée de la reconnaissance vis-à-vis de toi sera aussi bénie. Tu es un Dieu béni et tu bénis notre Dieu. Béni sois-tu. Que cette parole de méditation ce matin, Saint-Esprit, que tu nous aides à t'honorer, permet que nos cœurs soient réceptifs et que chacun et que chacune puisse recevoir la parole qui lui est destinée ce matin, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, pendant que nous recommençons tout doucement à égrener la fin des vacances d'été, n'est-ce pas, et à reprendre, en tout cas, notre vie sociale dans les semaines qui viennent, tout en ayant aujourd'hui cette vérité que notre vie sociale sera aussi avec cet événement qu'on appelle la pandémie. J'aimerais nous encourager dans ces dimanches qui vont venir à méditer ensemble le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. J'ai bien compris en écoutant aussi les messages que Teddy a donnés et qui sont sur notre site, que vous étiez déjà dans l'Ancien Testament, vous étiez déjà dans le livre, dans les livres de Moïse, n'est-ce pas? Et comme on le dit, nous les prédicateurs évangéliques, Dieu n'a pas de coïncidence, dans le sens où il n'y a pas de hasard, mais qu'il fait tout concourir pour l'édification de son peuple. Ce texte que je vous propose ce matin, il est dans le chapitre 6. Et j'aimerais qu'au travers ce texte, Dieu nous aide à renouveler notre vœu de consécration au Seigneur pour son service, pour l'œuvre de Dieu. Le peuple dans le désert, ce désert depuis le mont Sinaï où le peuple a reçu la loi, jusqu'à la porte de Canaan, la terre promise, a traversé, n'est-ce pas ? Cette partie de l'histoire du peuple de Dieu nous est relatée dans le livre de Nombres. Moi, j'ai reçu ce texte à un moment particulier ces derniers mois-ci. C'est le dimanche 26 juillet, dimanche jour de mon anniversaire. Je me suis réveillé avec ce texte. Et il s'est imposé comme ça dans ma pensée. Et j'étais dans un moment où j'étais dans un week-end missionnaire. Et j'ai partagé ce texte avec ses frères et ses sœurs qui étaient là réunis. C'est ce texte qui nous parle du vœu de Naziria. Le vœu de Naziria, c'est ce vœu que tout adulte peut faire pour servir Dieu, ou qu'une famille peut prendre au nom d'un de ses enfants. C'est ce que Anne a fait pour son fils Samuel quand elle a consacré à Dieu dans le temple. C'est ce que Élisabeth a fait pour Jean-Baptiste lorsqu'elle a reçu cette révélation de Dieu. C'est ce que aussi un juge célèbre a eu de la part de ses parents, Samson, n'est-ce pas? Lisons la parole de Dieu, chapitre 6 du livre de Nombres. Je lirai du verset 1 au verset 8, ensuite le verset 13 et 14, et enfin le verset 21 et 27. Donc ma lecture sera condensée, mais je vous indiquerai à chaque saut de verset où nous sommes en train de lire. Je lis dans la version, je crois, du Semeur. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne consommera ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin, qu'il soit frais ou sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête, jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera... Il sera saint, donc je suis au verset 5, c'est ça. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. Durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun corps mort. Il ne se rendra même pas rituellement impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur si ceux-ci viennent à mourir, car il porte sur sa tête la marque de sa consécration à son Dieu. Tout le temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. Verset 13. Voici la loi concernant le consacrer pour le jour où il aura achevé le temps de sa consécration. Ce jour-là, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre et il offrira un sacrifice à l'Éternel, un agneau dans sa première année sans défaut comme holocauste, une brebis dans sa première année sans défaut comme sacrifice pour le péché et un bélier sans défaut comme sacrifice de communion. Verset 21. Telle est la règle relative au consacré qui a fait un vœu. Et voilà ce qu'il offrira à l'Éternel pour sa consécration, sans compter les dons volontaires qu'il pourra promettre, si les moyens le lui permettent. Il agira conformément au vœu qu'il aura prononcé, en plus de ce qui prévoit la loi relative à sa consécration. L'Éternel dit à Moïse, verset 22, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi, je les bénirai. Amen. Voilà un texte qui semble très particulier pour nous qui ne sommes pas des juifs d'origine, avec tout ce que ça comporte comme rituel, comme sacrifice, et comme particularité. Et parfois, des livres comme ceux-là peuvent nous paraître un peu très lointains. Parce que pour comprendre toute la symbolique de rituel qui est dedans, il nous faut bien comprendre tout ce que Dieu dit par rapport à ces rituels-là. Beaucoup de choses sont des symboles de quelque chose de spirituel, mais d'autres fois, c'est juste des symboles aussi par rapport à la spécificité de ce peuple qui était dans le désert, qui était un peuple nomade, Et beaucoup de règles ont été aussi des règles d'hygiène, des règles de bon comportement, des règles pour que le peuple puisse survivre dans un temps où il était nomade, où il avait besoin d'une certaine sécurité sanitaire. Et parfois, tout ce faisceau de symboles peut nous embrouiller en tant que chrétiens du 21e siècle. Nous essayerons ce matin, pas de rentrer dans toutes les définitions de tous ces symboles, mais de comprendre l'essentiel de cette vérité spirituelle par rapport au consacré, par rapport au naziriat. Le livre de Nombre a été intitulé Nombre parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui commencent d'abord avec ce qu'on appelle le dénombrement du peuple. Le peuple est dans une phase spéciale. Il est arrivé au mont Sinaï. Dans le livre qui précède, il a reçu la loi de Dieu et le peuple s'apprête à la dernière traversée avant de rentrer à Canaan. Donc Dieu demande qu'on fasse une statistique de tous ceux qui sont restés vivants jusqu'à cette période-là. Et là, il y a toute une statistique du peuple, de chaque tribu, des Lévites. Donc, on a donné ce titre à cause du fait qu'il y a beaucoup de statistiques. Dans la version juive, hein, eux, ils ont aussi une autre appellation de ce livre. Ils l'appellent la traversée du désert. La traversée du désert, n'est-ce pas? Et quand on lit ce livre, on peut le lire comme un manuel pour Israël, un manuel qui a des thématiques assez spéciales. On en dénombre pour quelques commentateurs, en tout cas on en dénombre au moins 3, sinon un peu plus. C'était déjà de la manière dont la nation devait s'organiser lors de ce déplacement. C'était un déplacement spécial. Le peuple allait prendre possession de son territoire et Dieu donnait des consignes pour que ce projet arrive à son terme dans de bonnes conditions. C'était aussi la manière dont les sacrificateurs et les lévites devaient remplir leurs fonctions pendant leur pérégrinage futur. Donc il y a toute une explication de comment les lévites, ceux qui étaient au service du temple, comment Aaron et les descendants de lévites devaient servir le peuple, devaient tenir. Vous savez que c'était un temple mobile, hein, parce que le peuple se déplaçait, hein, ce qu'on appelait le tabernacle. Comment le démonter, comment le remonter, qui devait s'en servir, comment devait faire les choses, parce que la présence de Dieu devait être constamment au milieu de ce peuple. Donc on a aussi tous ces détails qui sont importants et qui nous aident aujourd'hui à comprendre le service de Dieu, la rigueur, l'exigence, mais aussi la bénédiction qui sont attachées au service de Dieu. Et enfin, la manière dont Israël devrait se préparer à prendre possession de son héritage à Canaan. C'était ça le but. Le but, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Genèse chapitre 12, je te donnerai une descendance, mais je te donnerai aussi un territoire. Et ta descendance habitera dans un pays où coule le lait et le miel. Une promesse qui a été faite très tôt à Abraham allait se réaliser à la fin de cette traversée du désert. Et donc c'était un objectif majeur dans le plan de Dieu. Installer son peuple selon sa promesse. Celui dont la parole est oui et amen, celui dont les promesses se réalisent toujours, allait-il être capable de réaliser cette promesse qu'il a faite au peuple? C'était ça qui conduisait le récit que nous recevons du livre de Nombre. C'est un livre dont le caractère historique renferme tellement de trésors pour l'histoire de l'humanité en général, mais surtout pour le peuple de Dieu. Une période de presque 40 ans va s'écouler entre la première génération qui va être recensée dans le chapitre 1 et la dernière génération qui va être recensée au chapitre 26. 40 ans de traversée du désert. 40 ans. À la base, il devait faire moins d'années que cela. C'est dans ce livre qu'on apprend que malheureusement, à cause de la... Comment dire ? C'est même pas de la désobéissance, c'est le fait qu'ils aient remis en cause le projet de Dieu. Parce qu'à un moment donné, si vous faites la méditation de ce texte, moi je l'ai réécouté avec ma Bible audio tellement de fois, il est beau comme texte, mais en même temps, il vous donne des frissons. Des frissons dans le sens où vous voyez comment Dieu peut avertir son peuple et comment nous les hommes, on peut être quelquefois, comment dire, ingrat. Parce qu'à un moment donné, le peuple dit, à Moïse, mais pourquoi même tu nous as fait sortir d'Égypte? Là-bas, au moins, on mangeait bien. Là-bas, au moins, quand nos parents mouraient, on pouvait les enterrer. Mais souvenez-vous que dans le texte qui nous explique pourquoi Dieu intervient, on dit pendant 4 siècles, le peuple criait à Dieu, viens nous délivrer de l'esclavage en Égypte. Donc Dieu exauce une prière du peuple. Et là, en nombre, le peuple lui dit, mais on t'a rien demandé. En gros, c'est ce que ça veut dire, on t'a rien demandé. On était bien là où on était. Et le texte est lourd parce que Dieu est... J'utilise un mot humain. Dieu n'est pas bien en ce moment-là, tu vois. C'est comme si tu es venu là où tu n'avais pas besoin d'être, en fait. Tu aurais dû nous laisser, on t'a rien demandé. Et Dieu n'est pas bien. Et il y a cette séquence avec Moïse où il dit, écoute, depuis le début, ça commence à bien faire. Moi, ce que je veux faire, et tu sais que je suis capable de le faire puisque je l'ai fait quand le péché de l'humanité arrivait à un terme, à une hauteur tellement insupportable que j'ai dû faire venir un déluge. Donc tu sais que je suis capable. Je vais raser ce peuple de la surface de la terre et à toi, Moïse, je vais donner une descendance. Et de cette descendance, le monde va continuer un peu mieux. Et Moïse, la Bible décrira un peu plus tard dans ce livre comme l'homme le plus patient. Il va rentrer en discussion avec Dieu. Il dit, tu sais, si tu fais ça, les gens diront, mais c'est vrai, tu les as fait sortir de l'Égypte pour les tuer dans le désert. Tu n'es pas un Dieu comme ça. Tu n'es pas ce Dieu-là. Tu n'es pas ce Dieu-là. Tu n'es pas ce Dieu-là. Et Dieu dit, mais je suis juste. Le péché et le mal ne peuvent pas être impunis. Ce n'est pas possible. Vu ton intercession, vu ta médiation, je ne vais pas les supprimer. Mais cette génération-là, celle-là, qui a été rebelle, ne rentrera pas à Canaan. Ils feront 40 années dans le désert, le temps qu'ils viennent à mourir de leur mort naturelle, et c'est leurs enfants qui rentreront à Canaan. Et c'est leurs enfants qui rentreront à Canaan. Dieu leur donne un sursis de 40 ans. Et voilà pourquoi ils font 40 ans dans le désert. À nouveau. Donc c'est un livre qui nous raconte non seulement l'itinéraire d'un peuple, mais l'histoire de l'être humain en général. Et Dieu, dans ce livre, en le laissant écrire pour nous, nous encourage, nous exhorte à regarder cette expérience humaine du peuple de Dieu et en tirer des leçons pour notre itinéraire en tant que chrétien, en tant que famille chrétienne, mais en tant qu'église de Dieu. Et moi, ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur quelques points, notamment par rapport à ce chapitre 6, mais déjà faire une comparaison qui me semble être actuelle. Notre monde, depuis fin octobre, début novembre 2019, traverse un désert. Le désert est l'image de l'épreuve. Notre monde traverse l'épreuve de la pandémie depuis novembre 2019. Notre monde est affecté par cette pandémie. Et vous savez que pendant cette pandémie, nous étions dans un décompte macabre de qui était contaminé, le nombre de contaminés, le nombre de décès. On avait droit à ça presque chaque heure. Et de façon massive, toute une journée. Et la journée d'après. Et la journée d'après. Et la journée d'après. On était dans un recensement journalier de qui était encore vivant, qui était presque en train de mourir et qui était mort. On ne l'a pas vécu comme ça, mais après coup, on se rend compte que c'était lourd. On nous a exposés jour après jour à une pression humaine lourde. Il me semble que ce recensement qu'on voit aussi dans le livre de Nombres peut nous donner de faire une lecture. Le monde actuel, au plus fort de cette pandémie, on a eu droit à tous ces recensements, à toutes ces statistiques. il y a déjà et il y aura un avant et un après COVID-19 dans le recensement mondial. Dans les églises, c'est vrai, nous n'avons pas fait ce recensement-là, nous n'avons pas eu ce même type de décompte, mais nous étions attentifs à cette même réalité. Qui parmi les nôtres avait été contaminé? Ou combien serait rappelé à Dieu? Ou qui avait été rappelé à Dieu? Et je me souviens que dans les pastorales de l'AEI, nous, en tant que pasteurs, nous nous donnions les informations les uns aux autres. Comment va ton assemblée? Comment vont les frères que Dieu t'a confiés? Notre monde traverse un désert. Notre monde est dans une épreuve. Il semble que la première vague est passée, n'est-ce pas? Mais la question n'est pas là, selon moi en tout cas. La question, me semble-t-il, c'est comment sortirons-nous de cette épreuve? Comment sortirons-nous de ce désert? Et j'aime ce livre de Nombre pour nous aider à formuler un début de réponse. Je ne répondrai pas pour l'Église universelle, encore moins pour le monde, mais je pense que chacun de nous, en lisant le livre de Nombre, pourra répondre pour lui-même, mais nous pouvons répondre pour notre Église locale de Créteil. Comment voulons-nous sortir de cette épreuve? Le livre de Nombre commence avec un recensement. Ils ont traversé le désert, Dieu était avec eux, et à la fin du livre, Dieu fait le dernier recensement, et ils sont là, à la porte de la terre promise. Le recensement du nombre 1 et nombre 26 concerne, il me semble, une période d'épreuve. Dans cette période de pandémie, en tout cas pour notre Église, il y a tous ceux qui, avant la pandémie, étaient impliqués ardemment pour plaire à Dieu et pour servir l'Église et l'œuvre du Seigneur. Ne serait-ce qu'ici, mais dans toutes les églises et dans le monde entier, les chrétiens, tous ceux qui étaient engagés. Et puis, il y a eu ensuite tous ceux qui, au fort de la pandémie, ce qu'on appelle la première vague, ceux qui ont travaillé pour maintenir leur foi vivante. Après avoir encaissé les premiers coups du confinement, il a fallu survivre, il a fallu que notre foi tienne. Il a fallu que nous restions debout parce que les lendemains n'étaient pas certains. Nous ne savions pas du tout ce qui arrivait à notre monde en ce moment-là. Et nous avions besoin d'être debout, en plus que l'Église avait été impactée. Interdiction de nous rassembler. Nous étions un peu déstabilisés. Nous avons dû réinventer une nouvelle façon de faire l'Église. C'était déstabilisant. C'était effrayant. Nous avions pendant 2-3 semaines perdu pied et nous avons dû nous accrocher au Seigneur. Donc il y a eu cette génération-là. Et nous faisons partie de cette génération. Et dans cette génération, il y en a qui ont été rappelés très tôt. On se souvient de tous les frères et sœurs de l'église de Mulhouse qui sont décédés du Covid. C'était un coup pour l'église évangélique en France. On se souvient de plusieurs pasteurs d'un certain âge que nous avons perdus dans les premières heures de cette pandémie. Et puis maintenant, la question, c'est enfin, il y a tous ceux dont vous faites partie, qui avons traversé cette première vague de la pandémie et qui maintenant, nous sommes là présents pour continuer l'œuvre de Dieu, pour continuer la mission, n'est-ce pas? Un peu comme celle du livre de Nombre, comme Caleb, comme tous ceux de cette génération qui n'ont pas été frappés par l'interdiction de cette punition et qui ont traversé le désert, et qui ont conduit le peuple à Canaan. Nous sommes de ceux-là. C'est ma lecture en tout cas, et j'aimerais nous encourager. Tout comme dans l'épreuve de la pandémie et dans cette traversée de cette dernière période de la vie de notre monde et de l'œuvre de Dieu, il nous faut envisager que nous allons vers un nouveau départ. Tous nos yeux sont rivés sur la reprise en septembre, n'est-ce pas? Plusieurs églises n'ont pas ouvert jusqu'à ce jour. Elles n'ouvriront qu'en septembre. Elles ne savent pas comment les choses vont se passer. Plusieurs églises sont même inquiètes parce qu'elles ont rouvert les cultes, mais les frères ne viennent pas. Les frères sont encore derrière leurs écrans. Est-ce la peur? On n'a pas de réponse. Mais on se dit, c'est l'été. Tout le monde est un peu en mode vacances. Donc on attend septembre pour voir. Alors que Dieu a besoin que l'église reste vivante et éveillée pour continuer l'œuvre. Et nous sommes là Nous qui avons traversé la première vague, nous sommes ceux sur que Dieu veut compter pour continuer l'œuvre. Parce que cette œuvre doit continuer pour la gloire de son nom. C'est donc là le thème pour lequel le nombre chapitre 6 me semble veut nous faire réfléchir. Il dit dans ce livre, chapitre 6, Moïse, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, dit aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, vous savez que se consacrer en Israël, il y avait deux types. Le premier type, en tout cas les consacrés, c'était déjà servi Dieu dans le temple, dans le tabernacle. Il y avait Aaron qui avait été désigné spécifiquement par Dieu et les Lévites. C'était ceux-là qui avaient été consacrés, on dit, à perpétuité. Ça se faisait de père en fils, c'était de génération en génération. Quand tu nais dans la tribu de Lévite, ta vie est consacrée au service de Dieu, que tu le veuilles ou pas. C'était un vœu perpétuel que Dieu avait choisi pour cette tribu et pour les descendants d'Aaron. Par contre, Dieu dit, je ne ferme pas mon service qu'à cette tribu-là. Si un homme ou une femme veut aussi, pour un temps donné, se consacrer à mon service, mais j'aime bien ça. C'est ce qu'on appelle la consécration volontaire, l'engagement volontaire. Il dit par contre, les mêmes exigences qu'ont les Lévites et les descendants d'Aaron, ceux qui veulent se consacrer à Dieu en auront un peu moins exigeants, mais ils en auront quand même. Et c'est ça que le texte nous raconte. Hein, interdiction de tout ce qui est lié à la vigne. Hein. On explique globalement que cette interdiction elle est liée à tout ce qui est enivrant. Donc, notamment le vin, et tout ce qui est lié au vin, c'est tout ce qui est le symbole de cette joie qui peut ne pas souvent être une joie authentique. Hein, vous savez que quand l'alcool agit sur le cervelet, il crée des sensations joyeuses. Hein. Parfois, on est étonné de voir des soulards en train de rigoler, de ricaner, alors que le type, il est ivre complètement. Parfois dans un état d'ébriété avancé, mais il a une joie, on ne sait pas d'où ça lui vient. Ben, ça vient de l'alcool. Et dans cette consécration, Dieu voudrait que le consacré soit authentique tout le temps, qu'il soit lucide tout le temps. Ce n'était pas une interdiction totale à l'alcool, en tout cas dans ce texte, puisqu'après il dit s'il finit son vœu, il peut reprendre. Hein? Parce que vous savez que la vigne fait partie de la culture des Israélites. Hein? Et que la vigne, l'un des produits de la vigne, c'est le vin. Et puis, il y a toutes ces autres exigences, les cheveux longs, et on explique, c'est plein de symboles qui expliquent, voilà, que les cheveux longs, c'est le symbole de encore de l'authenticité, celui qui ne touche à rien et qui ne se reste plus pour Dieu, mais ce n'est que des symboles. Hein. Ce ne sont pas des réalités à perpétuité, puisque les Lévites et Aaron n'avaient pas forcément ces exigences-là, ceux qui étaient consacrés à Dieu perpétuellement. Hein. Donc, c'est pour ces gens-là. Mais j'arrête là la définition des symboles parce que parfois ça peut conduire à des interprétations très fausses. Et beaucoup se sont mis dans des interprétations comme celle-là. Hein? Et il semble que même les partisans de ce qu'on appelle la Rastafari qui laissent des druides sont un peu partis de là aussi. Hein? Pour dire qu'ils sont des consacrés à Dieu et qu'ils ne touchent pas les locks et tout. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, vous voyez qu'on peut partir de ces tests et tirer des interprétations qui ne sont pas tout à fait celles qu'il faut tirer. Parce que Jésus, qui est le Nazaréen par excellence, il n'a pas suivi toutes ces exigences-là. Hein. Au point où les gens même disaient, mais vous êtes sûr que votre Jésus-là, c'est vraiment un prophète? Parce que le type, tous les soirs, il est autour des repas avec du vin et tout ça, alors qu'un Nazaréen ne doit pas faire tout ça. Et lui, c'est le Nazaréen par excellence, parce qu'il est consacré dès avant la fondation du monde pour servir son père, n'est-ce pas? Donc, attention à l'interprétation, à l'application de ces symboles qu'on trouve dans Nombre chapitre 6. Il faut comprendre l'essentiel, en tout cas pour nous les chrétiens du Nouveau Testament, l'essentiel de ce que voulaient nous communiquer ces symboles-là. Aujourd'hui, donc, ce vœu n'est pas un vœu. Nous qui servons Dieu en tant que chrétiens et chrétiennes, certes, nos vies sont consacrées à Dieu perpétuellement. Et c'est une grâce. Nos vies sont à Dieu. Et Dieu est à nous. Et nous sommes des enfants privilégiés parce que nous avons cette communion pour l'éternité avec notre Dieu. Et nos vies lui sont toutes faites en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier alors que nous étions détestables, alors que nous étions coupables. Lui, il nous a aimés. Il est venu nous chercher de la boue du péché, il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a fait des hommes et des femmes dignes. Et c'est sa grâce qui fait cela. Et nous lui offrons notre vie en reconnaissance de cette grâce-là. Donc nous sommes consacrés à Dieu perpétuellement, nos vies. Pour ce qui est du service, nous sommes au service de Dieu. Mais ce texte du Nazaréen nous explique que nous devons le servir avec un engagement volontaire. Il dit, si un homme, une femme veut faire un vœu de consécration, veut se consacrer à son Dieu pour le service, ben c'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Et en méditant ce texte, j'ai le sentiment que Dieu nous demande à nous qui avons traversé cette période particulière, où en es-tu avec ta consécration au service de Dieu? Comment es-tu sorti de cette première vague de la pandémie avec ta consécration au service de Dieu? Comment vas-tu continuer à te consacrer au service de ton Dieu à la sortie, sinon avec ce nouveau départ de septembre qui vient? Comment vas-tu le faire? Et je peux vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'églises se questionnent encore puisqu'elles n'ont pas repris. Et que ceux qui ont repris, nous, je pense qu'on sent que quand même certaines églises sont des exceptions. Et moi, je bénis Dieu. La reprise, on a fait deux cultes les dimanches matins. C'était lourd d'organisation. C'était un engagement et pour les présidents de culte, et pour la louange, et pour les prédicateurs. Très lourd, mais le conseil a dit très tôt, nous voulons continuer à servir notre Dieu dans le lieu qu'il nous salle de culte, et nous voulons que nos frères et sœurs reviennent dans la maison qui nous est dédié pour célébrer notre Dieu. Et chacun de nous y a mis son cœur. Que ce soit nous qui venions ici ou ceux qui sont restés derrière leurs écrans. Par contre, d'autres églises ont vécu des expériences plutôt mitigées. Où c'était toujours encore en discussion, mais quand même, il y a la pandémie. Est-ce qu'il faut y aller? Soyons sages. Et ça fait beaucoup de tension dans certaines communautés. Et quelqu'un a dit, c'est quand même un peu dommage. Le gouvernement, dans plusieurs pays, prennent toutes les dispositions pour que les cinémas, les discothèques, les nightclubs, tous les lieux de plaisir ouvrent et les gens sont prêts à y aller. Et alors que nous avons la liberté de rouvrir les cultes, les chrétiens continuent à s'interroger, est-ce qu'il faut y aller? Alors que nous qui ne sommes pas seniors et qui ne sommes pas des populations en risque, nous prenons, même pas le risque, nous prenons le temps d'aller faire nos courses dans les magasins. Où nous côtoyons des gens. Et pour la maison de Dieu, on continue à discuter, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller. Comment allons-nous nous engager à nouveau pour Dieu? L'Éternel dit à Moïse, dit aux Israélites, si un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, qu'ils comprennent qu'il y a et des bénédictions et des exigences. Si, et là je ne parle pas pour culpabiliser qui que ce soit, Dieu ne nous culpabilise pas. Mais si nous ne sortons pas pour venir dans la maison de Dieu, si nous ne nous reprenons pas, bien sûr nous ne reprendrons pas l'église comme avant la pandémie, c'est une certitude. Parce que Dieu au cours des siècles aussi, avec l'histoire de notre monde, a été toujours capable d'insuffler un souffle nouveau à son église. Regardez la façon dont nous faisons les cultes aujourd'hui. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, ils ne faisaient pas le culte comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas la même surface, ils n'avaient pas le même environnement urbain. Donc, Dieu donne l'intelligence aux hommes de s'adapter, mais c'est toujours le même fond, c'est le culte à l'honneur de notre Dieu. C'est le service à l'honneur de notre Dieu. C'est la consécration à servir l'œuvre de Dieu. Et on a fait toute une étude dessus. L'œuvre de Dieu commence par qui? Par nous-mêmes. L'œuvre de Dieu commence par s'occuper de notre propre foi. L'œuvre de Dieu continue par s'occuper de nos propres familles spirituellement. L'œuvre de Dieu continue par s'occuper de notre environnement. Et plus globalement, par l'Église de Dieu. Certains ont commencé à dire, ouais, mais nous, on avait déjà dit ça. L'église, c'est pas le bâtiment. Et voilà, maintenant, vous avez bien compris. Hein? Avec le Covid, on n'avait pas de bâtiment, mais est-ce que l'église n'était pas là? C'est vrai, parce qu'on était contraints à ne pas venir dans le bâtiment. Mais malheureusement, certains vont prendre cet argument pour ne plus revenir dans le bâtiment. Et d'autres vont se laisser influencer par cet argument pour ne plus revenir dans le bâtiment. Alors que nous avons fait vœu de consécration à Dieu. Alors que nous sommes, d'après l'épître de Pierre, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes des enfants de Dieu qui sommes là pour être en gestion de l'héritage de notre Père céleste. Et cet héritage, c'est quand nous nous donnons la main ensemble pour faire avancer son œuvre dans l'Église, avec les frères et les sœurs. Alors le Seigneur nous demande, au travers de ce test, de nous engager. En tout cas, de revisiter notre engagement. Il ne nous force pas. Dieu est quelqu'un, pour utiliser une expression humaine, Dieu est quelqu'un de correct. Il ne force personne à s'engager. Par contre, il montre tout le bien qu'il y a à s'engager. Il montre toute la bénédiction qu'il y a à s'engager. Vous savez, et nous sommes tous convaincus, et j'aime à le dire, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont engagés dans les générations avant nous. C'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont engagés à continuer à proclamer l'évangile, de sorte que quand nous sommes nés, quand nous étions matures, nous avons entendu l'évangile être proclamé. Et nous avons été touchés par le Saint-Esprit. Et nous, qu'est-ce qu'on va laisser à la génération après nous? Une génération qui va vivre avec la pandémie, que va-t-elle voir de l'Église? Une Église apeurée, une Église qui a baissé les bras, une Église qui se replie dans sa maison et qui ne vient plus dans les lieux de culte? Je bénis Dieu ce matin, regardez, nous avons trois jeunes avec nous qui ont été constamment dans cette pandémie avec nous, au cœur de l'action. Je parle de Sarah, qui était aux commandes depuis chez elle, engagée avec sa famille. Je parle d'Anaël, genou avec Othniel. Quand moi je descendais ici, il aidait la famille à se connecter. Il mettait tout en place pour que la famille puisse avoir aussi le Zoom et rester en contact. Et lui aussi, il était dans le culte. Et je crois que c'est une bénédiction dont nous ne nous rendons pas compte. Nos jeunes ont été impliqués avec nous. C'est une bénédiction, bien-aimée. Bénissons ces jeunes et prions que Dieu continue de faire grandir cette graine qui est en eux. Ils aiment l'œuvre de Dieu. Et nous devons continuer à aimer l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à aimer l'œuvre de Dieu. Je parle de quelque chose d'évident pour nous, mais je me semble que l'ennemi va beaucoup travailler sur ce terrain-là. L'ennemi va beaucoup travailler sur ce terrain, dans la déstabilisation de « ouais, je vais au culte ce dimanche, je reste derrière mon écran ce dimanche », alors que c'est une question que nous ne nous posions pas avant. C'est dimanche, on allait au culte. Et maintenant, on va se poser la question, j'y vais, je reste derrière mon écran. S'il y a des raisons valables, pourquoi pas? Mais faisons attention que ces raisons-là soient raisons valables et que ce ne soit pas un début de paresse spirituelle. Que ce ne soit pas un début de négligence spirituelle. Parce que le vœu que nous avons fait, c'est de servir notre Dieu en Église, ensemble. Dieu s'engage avec nous. Dieu est correct. Il met devant nous toutes les bénédictions, mais aussi les exigences qu'appelle un engagement chrétien. En sachant dans quoi nous nous engageons, et nous le savions, et nous le savons toujours, dans un plan de bonheur pour l'humanité, un plan de proclamation de la délivrance et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous ne sommes pas des super hommes, mais nous sommes des hommes et des femmes simples avec un Dieu qui dit « Allons-y, je suis avec vous, je ne vous lâche pas », comme dans la traversée du désert dans le livre de Nombres, il n'a pas lâché son peuple. Il a été avec eux du début à la fin, tous les jours, par sa présence au sein du peuple. Ce vœu aussi nous montre que un vœu de consécration, ce n'est plus un vœu perpétuel. C'est un vœu où on le fait pour un certain temps, et quand le temps qu'on a consacré à Dieu est fini, on appelle, on va au temple et on fait son sacrifice et on arrête son vœu. Quelle leçon pour nous? La leçon pour nous, c'est on n'est pas perpétuellement dans un seul service dans l'Église. Dieu peut nous convaincre de servir tel domaine de l'Église pendant un certain temps. Et si la conviction n'est plus là, comme dans le vœu de Nazaréat, on arrête ce service parce qu'on estime que le temps qu'on avait à donner à ce service est arrivé à son terme et Dieu nous donne un autre engagement dans un autre service de l'Église. Parfois, c'est là qu'il y a peut-être un petit hic. Quand ces temps-là arrivent, nous, les membres du conseil, nous, les pasteurs, c'est un temps qu'on n'apprécions pas beaucoup parce que c'est des bien-aimés qui sont vraiment utiles dans ces services-là. Et puis, ils te disent, bon, ça fait des années que je sers là, là, la conviction est là maintenant que je veux passer la main à autre chose. Quand il y a des successeurs, ça va. Je dis, ouais, ok, tu peux passer la main parce qu'il y en a après toi. Mais quand il n'y a personne, on est embêté. On dit à la sœur ou au frère, veux-tu rester encore? Alors que ce texte dit, si la personne avait donné un temps à Dieu et que ce temps est arrivé à son terme, si elle a fait son sacrifice, qu'elle a fait son service, le texte dit, le sacrificateur fait le sacrifice et lui dit, tu es relevé de ton engagement parce que tu as honoré ton engagement vis-à-vis de Dieu. Tu peux passer à autre chose. Et Dieu, je me sens, veut nous encourager. Quand ses frères arrivent, quand ses sœurs arrivent à ce moment-là, nous devons plutôt dire, merci bien-aimé. Tu as été vraiment utile à Dieu dans ce service pendant toutes ces années, pendant tous ces mois. Tu n'es pas en train de nous dire que tu quittes la foi chrétienne, donc on n'a pas besoin d'être malheureux. Tu n'es pas en train de nous dire que tu quittes l'église, on n'a pas besoin d'être malheureux. Tu es juste en train de nous dire que Dieu te parle à t'engager dans un autre domaine de l'église ou parfois dans un autre domaine de l'œuvre de Dieu de façon plus large. Et nous devons être sages de dire, ok, que Dieu te bénisse. Mais c'est Dieu qui appelle et c'est lui qui renouvelle aussi. Amen. Et ça, c'est un autre enseignement que Dieu, en tout cas, que je comprends dans cette méditation pour moi-même et pour aussi le service de Dieu dans notre Église, parce que nous sommes aussi dans cette période où quelques-uns de nos aînés, quelques-unes de nos aînés nous ont dit depuis un certain temps que voilà, dans ce service précis de l'Église, ils ont les sentiments qu'ils ont tout donné et qu'ils veulent maintenant se reposer tout en restant avec nous. Mais qu'ils veulent donner la charge à quelqu'un d'autre. Et nous les avons maintenus parce qu'il n'y avait personne. Parce qu'il n'y avait personne. Mais nous avons commencé à comprendre il y a 2 ans au conseil, sinon il y a 3 ans, que quelquefois c'est plus sage de dire ah, que Dieu te bénisse. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Mais tu as été un serviteur, tu as été une servante de Dieu à la gloire du nom de ton Père. Qu'il te bénisse. Dieu se pouvoira un autre ou une autre servante. Et c'est cette conviction que je reçois aussi de ce texte. Il dit, si un homme, une femme a fini son vœu et qu'elle a fait les sacrifices qu'il faut, le sacrificateur doit dire, ton vœu a été fait. Que ton Dieu te bénisse et tu peux retourner ou tu peux t'engager dans autre chose. Amen. Et enfin, pour conclure, dans ce thème de l'engagement, dans ce thème du renouvellement de notre engagement, Hébreux chapitre 11, verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Le texte nous dit que quand Dieu dit à Abraham au chapitre 12 de Genèse, lève-toi, je t'ai choisi toi, avec la bénédiction qu'il profère sur lui, je te conduirai vers un pays. Mais Abraham n'a pas de GPS en ce moment-là. Il ne sait même pas où c'est ce pays. Il n'a pas de carte. C'est un homme ordinaire. Et Dieu dit, c'est moi qui vais te guider. Tu ne vas pas dans l'inconnu, mais c'est vrai, tu ne sais pas trop l'itinéraire. L'itinéraire, c'est moi qui m'en charge. Et Abraham a fait confiance à Dieu. Il dit, si c'est toi qui t'en charge, je te suis. Si c'est toi qui t'en charge, je te suis. Et Dieu dit, à une seule condition, que tu écoutes bien mes instructions. C'est comme le GPS. Si tu le mets que tu ne l'écoutes pas, bah, tu es un peu stupide. À moins que tu connaisses la route. Parce que si tu le mets que tu ne le suis pas, c'est vrai, il y a des GPS qui nous plantent, mais on ne parle pas de ceux-là. Mais si tu le mets que tu ne le suis pas, c'est sûr que tu ne vas pas arriver à ta destination. C'est sûr. Parce que tu ne connais pas l'endroit. Et avec Dieu, nous connaissons où nous allons. Parce qu'il nous l'a déjà dit. Mais l'itinéraire, nous ne le maîtrisons pas. C'est lui qui le maîtrise. Et dans le service de Dieu, c'est ça. L'itinéraire pour servir Dieu, c'est lui qui le maîtrise. Et nous avons besoin de lui faire confiance. Abraham partit vers un pays qu'il allait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait, mais il a fait confiance à son Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Notre consécration au service de Dieu est un service pour Dieu et pour notre prochain. Et je terminerai avec un texte et la bénédiction qui est à la fin du livre de chapitre 6 du Nombre. Le texte est Marc 12, 28 à 31. Quand on a posé la question à Jésus, quel est le commandement le plus important de tous ? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est un seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici ce qu'il vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Ça, ça résume bien notre vie de consécration. Nous devons être consacrés tout entier à notre Dieu. Notre cœur, notre âme, notre pensée et toute notre force doit être consacrée à Dieu. Et tout ce que nous faisons doit être consacré à l'amour de notre prochain. Voilà la motivation de notre service. Nous servons celui que nous aimons de tout notre être et nous servons nos bien-aimés, nous servons notre prochain parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je prie que dans ces temps précis, comme le Seigneur l'a dit dans Nombre chapitre 6, verset 24, que l'Éternel te bénisse et te protège. Verset 25, que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Verset 26, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Béni sois-tu notre Dieu. Merci Seigneur. Merci de nous renouveler dans notre engagement à ton service. Merci de nous renouveler dans notre engagement chrétien. Merci de nous renouveler dans tout ce que tu voudrais, dans tout ce que tu as placé, dans toutes les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour que nous les pratiquions pour la gloire de ton nom et pour notre propre bénédiction, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit communautaire. Bénis-nous ensemble, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.